pour être fille. À 5h, un 4 novembre, le ciel était couleur de soufre. Et ce jour-là, précisément, on proclamait l'indépendance.
Rigolo,
non?
Radio Libertaire 89.4.
La radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre. Et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.
Et s'agit à l'envie pour nous défaire la vie. Serait triste la vie. Serait moche alors. Alors
je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débats, livrés combat.
Nietzsche.
Je porte un toast à tous ceux qui on luttait pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
C'est toujours Radio Libertaire, toujours 89,4 MHz. Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et c'est l'émission Idéaux et débats du jour qui commence, avec aujourd'hui, pour deuxième émission de suite, un invité unique, enfin plutôt une invitée, parce que son livre mérite largement qu'on s'y attarde. Il s'agit d'Irène Fenoglio. Ce n'est pas un roman, non, c'est un récit qu'elle nous a donné à lire, un récit qui s'intitule « Tout héritage est une métamorphose », c'est quand même un très très joli titre, et ce livre est paru aux éditions Albin Michel. Alors on a eu la chance de rencontrer Irène Fenoglio et de pouvoir nous entretenir longuement avec elle. Son livre est passionnant et autant d'habitude, je n'accorde pas trop d'importance à la quatrième de couverture, autant pour une fois, j'ai trouvé que celle-ci était particulièrement juste. Alors avant qu'on retrouve Irène Fenoglio, je vais vous proposer de découvrir cette quatrième de couverture et j'espère qu'elle vous alléchera autant qu'elle m'a alléchée.
Thank you.
héritage est une métamorphose. Lorsqu'il n'y a pas d'héritage matériel, lorsqu'il n'y a pas de transmission patrimoniale, il y a quand même héritage. C'est cela dont je veux parler, car l'héritage est une métamorphose qui s'opère en grande partie à l'insu de nous. Pour le dire autrement, les démunis, les pauvres en toutes choses, subissent ou bénéficient, c'est selon, aussi d'un héritage. J'irais jusqu'à dire qu'il n'y a pas de déshérité. On hérite de la famille, de sa composition, de ses différents membres, mais pas seulement de cela. L'essence de l'héritage se passe en soi, en chaque personne, d'une façon singulière. La question, de fait, est infinie. Et je m'interroge, de quoi ai-je hérité, moi, sans recevoir d'héritage ? Quelle est la forme de cet héritage sans propriété ni capital mesurable ? Comment le repérer ? Comment tirer le fil du vivant transmis à partir du bel et vivace aujourd'hui ? Voilà, c'est toute cette interrogation qu'Irène Fenoglio déroule dans son livre « Tout héritage est une métamorphose ». On la retrouve tout de suite, c'est Radio Libertaire, c'est Idéaux et Débats. Radio Libertaire 89,4 MHz, c'est toujours l'émission Idéaux et Débats, avec le grand plaisir de rencontrer aujourd'hui Irène Fenoglio pour un ouvrage qui est paru chez Albin Michel qui s'appelle « Tout héritage est une métamorphose ». Et déjà, le titre est absolument merveilleux. Moi, j'adore ce titre. Il dit tellement de choses positives et c'est tellement chargé que moi, ça me parle énormément. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce livre, Irène Fenoglio, on va être amené à en parler. C'est un livre qui m'a touchée, dans lequel je crois que tout le monde peut se retrouver. C'est un livre qui dit des choses importantes à une époque où on a tendance à tout vouloir simplifier et réduire à des algorithmes, à des systèmes binaires. Et je crois que... avec ce livre, vous faites d'une certaine manière l'héritage de l'héritage, lapsus. Intéressant quand même. Vous vantez les mérites de la complexité et ça fait du bien. Voilà. Alors, on va parler du livre, mais quel est l'amont de ce livre ? Quelle est l'histoire qui vous a conduite à l'écrire ?
Alors, ce livre est en moi. Il y a deux volets. Le premier volet, qui était de rendre un hommage à mes parents, c'est en moi depuis très longtemps, mais je n'avais pas le temps, où ma mère était encore là, qui avait un regard sur... dont je sentais le regard sur ce que j'aurais pu écrire et qui ne m'aurait pas laissé entièrement libre. Et puis un autre volet sur cette question, je ne l'avais pas tout à fait nommé héritage au départ, en gros une question de l'identité dont on parle énormément. Et tout ça c'est joint et pour faire ce livre, et je l'ai écrit par rapport à sa genèse, je l'ai écrit assez rapidement. C'est vrai que j'ai été titillée par cette phrase d'Emmanuel Macron qui m'a meurtri au plus profond de moi, meurtri cette phrase publique en disant « il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien », cette notion de réussite seulement par l'argent est pour moi quelque chose d'absolument aberrant, qui n'a aucun contenu, qui n'a aucune consistance, sauf l'argent. Et ça m'a profondément blessée en mes parents, en moi. Et du coup, ça a précipité. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que, effectivement, cette phrase est terrible. Elle nie
ce qu'est la richesse d'un individu. Elle est méprisante, elle est avilissante et elle correspond au personnage et à l'époque que nous traversons, malheureusement. Et c'est pour ça que tout héritage est une métamorphose, est un peu le contre-pied à ce type de discours, Irène Fenoglio, et je vous en remercie. Alors, tout héritage est une métamorphose. Quand on parle d'héritage, là, il ne s'agit pas d'héritage matériel. Il n'est pas question d'hériter des biens. Mais justement, c'est toute la question. De quoi on hérite quand il n'y a pas de bien matériel? C'est quoi qui se transmet? C'est quoi qu'on garde en nous? Et qu'est-ce qui fait que c'est aussi singulier? Parce que je crois que c'est important quand il y a des biens, des terres, des immeubles, des appartements, etc. Il y en a un qui récupère un truc, une somme et autre. Tandis que là, l'héritage immatériel, eh bien, chacun a une part active dans cet héritage, ce n'est pas simplement une transmission d'un ancêtre à une autre personne.
Oui, exactement, exactement ça. Il y a l'héritage événement qui est, il me tombe dessus, tiens, un héritage, super. Et il y a, quoi que pensent les gens, il y a toujours un héritage intérieur. Ils héritent toujours de quelque chose.
Et heureusement.
Et heureusement, absolument. Et c'est ce qui nous constitue. On n'est pas autre chose que ça. Que ce dont... D'abord la vie qui vient des poussières d'étoiles et donc qui vient de très loin, qu'on ne maîtrise pas, dont on ne peut pas faire la trajectoire, l'itinéraire. Et puis, il y a tous ces précédents qui ont abouti à nous. Et on ne sait pas exactement, c'est un peu mystérieux, on ne sait pas exactement de quoi on hérite, on fait. Il y a un savoir objectif sur ce qu'on hérite, nos parents, nos précédents, nos grands-parents. Il y a donc des objets, par exemple, comme j'en montre dans le livre. Et il y a un savoir... intime, que certains mettent toujours, d'autres non. Et il y a, je dirais, une intimité mystérieuse qu'on n'éclaire pas en général, mais qui travaille en nous. Et c'est ça que j'appelle métamorphose. C'est tout cela vient ensemble. Et alors, c'est pour dire que tout le monde a un héritage, c'est pour détourner un peu l'attention sur ces héritages mirobolants et financiers, et etc. qui, si vous voulez, ce que je veux dire aussi, c'est que s'il me venait un héritage massif, par hasard, je dis mais c'est pour tout le monde, on ne peut pas faire quelque chose de cet héritage financier, matériel, si on n'a pas soi-même une vue de ce quel est notre désir dans la vie. Sinon, on prolonge la finance, l'immobilier, etc. On est passif, nous ne sommes pas actifs. C'est un petit peu ça que j'ai voulu dire dans le livre.
Le désir est important, on va y revenir dans quelques instants, parce que c'est quand même un des moteurs de ce livre et de l'existence en général qu'on a tendance un peu à négliger. Mais oui, revenir sur ce qui nous est transmis, et là en l'occurrence qui vous a été transmis par vos parents et les grands-parents de vos parents, c'est toute une aventure, parce que vous citez Patrick Boucheron qui dit que la chronologie est mensongère, ce qui est tout à fait vrai, et donc vous vous attelez un petit peu à cette histoire familiale, et surtout, ce qui est important, c'est que ce qui compte, ce sont les trous. C'est ce qui n'a pas forcément été connu. De vos deux parents, ce qui ressort, c'est que votre mère a écrit son histoire, mais pas à votre destination, à celle de ses petits-enfants.
Absolument.
Et ça posera la question aussi de la différence entre la transmission orale et l'écriture. Quel récit on fait par écrit qui n'est pas le même que celui qu'on ferait en oralité? Et puis votre père, lui, était un taiseux. Il n'a pas parlé de son histoire, et ce que vous avez connaissance de lui est passé par l'intermédiaire de votre mère. Donc on voit déjà que les choses ne sont pas simples, et tant mieux.
Absolument, absolument. Les choses sont toujours compliquées et effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure sur la nécessité de garder la complexité des choses m'apparaît aujourd'hui absolument mais essentiel pour la survie de l'humanité. On ne peut pas réduire tout ce dont on parle à quelque chose de simple. Le simple, c'est une conquête sur le complexe. Ce n'est jamais un donné brut au départ. Et c'est vrai que mon père parlait, mais pas de lui. Il parlait peu, mais il ne parlait jamais de lui. Et ma mère, au contraire, aimait raconter. Je pense que ma mère a eu une enfance heureuse, petite enfance heureuse, bien que extrêmement...
Heureuse, mais douloureuse.
Douloureuse, précaire, mais elle a eu des points affectifs forts, notamment
un grand-père.
Son grand-père, et je pense sa mère. Et alors que mon père, je pense qu'il a souffert dans son enfance, de ce que m'a dit ma mère, et... Il n'a pas eu de point fort d'arrimage pour pouvoir en parler ou être à l'aise dans la vie. Et donc il n'a pas parlé de lui. En effet, c'est un, pour moi, c'est un grand silence que j'ai comblé. Je peux dire que j'ai imaginé ce qu'il ressentait, ou je l'ai ressenti à travers ses façons d'être, et voilà. Mais c'est, je pense que dans la vie de chacun, je crois qu'il est très rare qu'il n'y ait pas de trou dans le récit antérieur à la vie des gens.
Vi svelo un segreto. In Italia, quando accendono le luci, vuol dire che bisogna andare a casa. Qui in Germania, a Berlino, avete altre abitudini. Comunque, grazie mille di questa accoglienza così calorosa e vi canto un'ultima canzone.
Mi meom e i miei fiei. Sarei proprio ben là in cima. Mi meom e mi fiei. Mi pare fasia il mio raduno. Le morte ancora sporche di causina. La fa la chiella ca. La culina la fa la per quattro signor, la fa la chiella casa, la culina la fa la per quattro signor. E lor vengo di sta ma due mesi per van via. La tengo mac, basta che sia. E mi son senza ca. La tengo mac, basta che sia. E mi son senza ca. Maria Lavarda pendisse, mi potrei mai catela, per i poveri e nen il paradiso, mi potrei mai catela, per i poveri e nen.
Tout à fait. Et quand vous évoquez Irène Fenoglio à propos de Tout héritage est une métamorphose parue chez Albin Michel, le fait que vous avez ressenti, c'est au sens propre du terme. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes retourné à Nice, vous êtes retourné voir une vieille maison, vous êtes retourné sur les lieux, et quelque part, ça a réveillé à vous, en vous une sensorialité. Et je crois que c'est très important parce que la mémoire qui nous constitue n'est pas faite uniquement d'éléments factuels, rationnels, ordonnés. Et je crois qu'on s'en rend tout à fait compte en lisant ce livre.
Oui, je suis heureuse si on s'en rend compte parce que je pense que le corps est très important. On ne peut pas l'éliminer, on ne peut pas rester dans de la pensée pure, ce qu'on appelle spiritualité.
Oui, mais qu'on nous sert à tout propos, parce que le corps est totalement nié maintenant.
Absolument. Et je pense que la mémoire, elle est corporelle aussi. Ce que je relate dans le livre, lorsque j'ai monté les escaliers du 22 rue Arson à Nice, où j'ai vécu jusqu'à 9 ans, et j'ai eu la sensation dans mes pieds, malgré les chaussures, et de sentir ce sont des marches très basses, et de sentir vraiment le même rythme, la sensation de monter les escaliers. Donc oui, tout ça est corporel, sensuel. On ne peut pas éliminer cela, et on pense avec cela aussi, la façon aussi dont j'ai observé les manières de faire de mon père, de travailler, de toucher les pierres, de pour moi, c'est sensuel. Et d'ailleurs, ça s'est transmis directement en moi, puisque je pratique la sculpture. Et je sais que cette sensation me vient de là.
Oui, oui, non, mais c'est intéressant de voir ce qui passe. Votre mère était aussi couturière, oui, et il y a ce rapport avec les tissus. Vous dites à un moment qu'elle était capable de retourner un manteau, oui, et que c'est pour faire du neuf avec du vieux. Et c'est ce qu'on fait avec l'héritage.
Exactement.
C'est faire du neuf avec du vieux. Et qu'est-ce que c'est que ce vieux qu'on nous transmet ? Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, au-delà de la dimension sensorielle, il y a la dimension identitaire aussi qui intervient beaucoup, Irène Fenoglio, dans ce livre, parce que vos parents sont italiens. Italien-français, voilà,
oui, oui.
Que ce nom Fenoglio vous a suivi, et que vous ne parlez pas l'italien.
Oui.
Donc ça, ce sont des éléments aussi importants, parce que vous avez cette nostalgie, enfin c'est pas vraiment une nostalgie, mais ce regret de ne pas maîtriser cette langue, avec ce père qui glisse des échos de temps en temps, qui parle en issard, enfin, il y a quelque chose là de perdu. Mais on revient encore une fois de plus à la parole et au langage et à comment on s'exprime dans une famille. Et je trouve que vous l'abordez de manière passionnante.
Ben, je vous remercie. Avant d'aborder la question de l'identité, cette histoire de retourner un manteau, oui, une fois que ça m'est venu, alors que je l'écrivais, j'ai trouvé ça extraordinaire.
Ouais.
Extraordinaire. Et quel courage, ma mère, de reprendre tout ça, de ne pas gaspiller et d'en faire quelque chose de neuf. Et là, je c'est pour ça que je reprends cette histoire. C'est, je trouve là l'écriture, la littérature, parce que quand j'ai écrit ça, je me suis dit mais c'est ça l'héritage.
Mmh.
Et c'est un fait d'écriture.
Mmh.
C'est-à-dire que l'écriture me fait penser, m'a permis de je me suis dit, mais oui,
ça
mais
fait partie du processus.
Ça fait partie du processus. Donc, alors la question d'identité, oui, oui, ça m'a amusé de faire remarquer que le nom que je porte, qui est toujours italien, Fenoglio, c'est un nom italien, et pourtant il vient de mon père, de son père, etc. Et qui sont nés dans une ville qui est aujourd'hui française.
Eh oui, comme quoi les frontières.
Voilà, les Français ont construit un mur, il aurait fallu le détruire. Et en revanche, ma mère porte un nom français, mais elle vient d'un petit hameau qui est toujours italien.
Tout à fait.
Donc, c'est pour dire l'inanité, la bêtise de penser que lorsqu'on engage toute une pensée, une identité une et finie devant une personne lorsqu'elle dit je viens d'ici ou mes parents viennent d'ici. Voilà, c'est ce que je voulais faire.
Oui, vous allez carrément plus loin. Irène Fenoglio, dans Tout héritage est une métamorphose, paru chez Albin Michel, parce que vous évoquez à quel point ces systèmes de pensée figés et assez simplificateurs que sont effectivement la nationalité, enfin enfermer les gens dans des cases, comme on le fait beaucoup en ce moment, à quel point bah, déjà ça n'a pas de sens, et que la seule chose qui permet de continuer de vivre et d'avancer, c'est de transgresser, c'est de s'affranchir de ça. Et l'exemple que vous mettez en exergue de manière très très importante, c'est le prêt-à-penser religieux.
Absolument, absolument. Ça, ça me travaille depuis très très longtemps.
Comme je vous comprends.
c'est vrai que j'ai eu la chance de grandir dans une famille athée. Enfin, ça n'a pas été tout de suite pour ma mère, mais elle a suivi un processus athée, mais respectueux. Le récit que fait ma mère de son mariage avec mon père, et mon père a respecté la sensibilité de ma mère, donc a accepté d'aller à l'église, mais il a refusé de communier alors qu'on lui présentait cela comme une absolue nécessité. Et ce geste-là, pour moi, est fondateur. Il est vraiment fondateur. C'est-à-dire, comme je le dis bien sûr, et quand on m'interroge là-dessus, je ne cesse de le répéter, loin de moi l'idée de juger, condamner une personne qui à la fois qui s'accroche à une structure, une institution, parce que ça lui permet de vivre. Chacun trouve son étayage, mais ça ne va pas m'empêcher de condamner les institutions religieuses qui, je pense, prônent la répétition du même, toujours le tout même, toujours le même livre. On peut commenter le livre, mais on commente le livre et on commente le commentaire.
Et c'est un credo.
Et c'est un credo. Et qui rend irresponsable. Parce que on va d'abord se demander qu'est-ce qu'il faut en penser avant de penser. Et les notions d'autrui, si proclamées, sont souvent des notions de autrui dans ma communauté, l'autre, et ma communauté, bien entendu, est meilleure que l'autre.
Meilleure, bien sûr.
Et bien sûr, elle est... Et c'est finalement un manque d'ouverture à l'au-delà, à l'autre, à tout ce qui est hors frontières communautaires.
Thank you.
toute façon, Irène Fenoglio, vous faites d'une certaine manière l'éloge de la désobéissance.
Absolument. Absolument.
Avec le fait que, par définition, un ordre, il faut le remettre en question.
Absolument. C'est-à-dire, je pense que, en fait, il ne faut jamais obéir. Je pense qu'il faut regarder les choses, écouter, se faire une opinion, changer d'opinion.
Oui, on peut.
Ah ben oui, bien sûr, et on change souvent d'opinion parce que on n'a pas toutes les informations nécessaires, puis on en trouve une autre, etc. Mais obéir, non, parce que obéir, c'est obéir qui amène à ces phrases, quand certains ont commis des atrocités, disent « c'est pas ma faute, j'ai obéi aux ordres ». Ben, il ne faut pas obéir aux ordres, il faut les entendre et en faire quelque chose, mais pas obéir. L'obéissance, c'est très très aux réseaux sociaux, aux logiciels, malgré nous, parce qu'on ne sait pas ce qui est mis dans notre téléphone, ou c'est quelque chose de très grave, donc... Comme ça, c'est un monde que je ne connais pas. J'ai voulu insister sur ce qui est à la portée de tout le monde.
Oui, j'allais aller au-delà parce que, en plus, que ce soit dans les réseaux sociaux ou dans certains médias, il y a aussi cet appauvrissement du langage avec le fait de réduire le nombre de mots qu'on utilise dans notre époque actuelle et en plus de faire en sorte de vider les mots de leur sens, de les détourner, de les réduire à des concepts qui n'ont plus de véritable valeur. Et c'est aussi ça qu'il faut remettre en question. C'est quand tu me parles, que me dis-tu ? Et quand c'est écrit sur Facebook, Insta ou autre, qu'est-ce qu'il y a derrière ?
Oui, alors c'est sûr, c'est une question du langage. Bon, le langage a toujours été utilisé aussi pour mentir. Ça, oui, bien entendu,
bien
sûr. C'est une constante. Mais aujourd'hui, je dirais que... c'est juste ce que vous dites, mais plus que cela, je crois que c'est au-delà, c'est que on n'a plus la possibilité de sortir de ces réseaux sociaux ou de même si on le veut. Si on le veut, on peut bien sûr ne pas avoir de téléphone, ne pas avoir internet, mais on ne peut plus vivre dans la société actuelle. On est hors société. Donc, cet envahissement, cet envahissement où la personne, le singulier de la personne
disparaît,
qui, à mon sens, est dangereux. Et je regarde avec un tout petit peu d'espoir, un petit peu, pas beaucoup, toutes ces appels à se délester des réseaux, je ne sais pas de quelle façon ils seront suivis, mais disons que peut-être qu'il commence à y avoir une prise de conscience.
C'est surtout l'importance d'établir des endroits autres, extérieurs,
absolument,
où on se retrouve en communication,
absolument,
directe et en débat direct, et on peut ne pas être d'accord, mais on échange pour de vrai, pas par des phrases sur des réseaux.
Et si je peux ajouter, je pense que là, le livre tient vraiment sa pertinence, l'écriture, la lecture, et alors, on nous a toujours promis la disparition du livre. Je crois que le livre est assez exceptionnel, enfin, depuis l'invention... même avant l'invention de l'imprimerie, bien sûr, depuis que l'écriture existe, elle ne s'est pas perdue, elle continue, on a changé des disquettes aux CD, aux clés, on va encore changer de support numérique, mais le livre est toujours là, et le livre se transmet, le livre se passe, le livre... le livre se lit et quand on veut, où on veut, comme on veut. Et je pense que c'est là et l'importance de la littérature au sens le plus large du terme.
Il y a un autre point qui est important, Irène Fenoglio, dans Tout héritage est une métamorphose chez Albin Michel, et ça rejoint un peu ce qu'on était en train d'évoquer, parce que il faut pas croire que les combats à mener soient forcément perdus d'avance et insurmontables. Il y a dans votre livre des actes de transgression à répétition, mais qui sont de petites dimensions. Et ça, c'est super intéressant, parce que ça montre que juste par une manière de s'asseoir en bout de table, la manière de choisir un prénom, c'est des gestes anodins, c'est des petites choses, mais c'est extrêmement fort dans leur puissance d'émancipation.
Absolument, absolument, ça j'en suis absolument convaincue. Et c'est pour cela que je pense qu'il faut garder, il faut protéger le singulier des personnes humaines pour qu'elles aient l'espace pour réfléchir à ces choses qui ont pu advenir dans leur vie, la vie de leurs parents. Par exemple, lorsque ma mère raconte son mariage et la façon dont elle arrive au repas de famille qui était chez mes grands-parents paternels, rue Place Vieille à Nice, et elle raconte comment elle a changé la place des choses. Ma mère était très inhibée, très timide, mais je pense que le mariage lui donnait une force d'être accompagnée par l'homme de sa vie, et elle a eu ce geste-là. Et je dois dire qu'elle-même, après, vis-à-vis de mon père, s'est comportée, ne s'est pas toujours comportée à la hauteur de ce geste initial.
Mais elle a pris sa place à un moment donné.
Elle a pris sa place, et le fait qu'elle le raconte m'a été transmis. Et parce qu'elle l'a raconté oralement avant qu'elle écrive, donc on avait cela en tête. Et c'est cela qui a joué sur moi, comme c'est cela que j'ai. Peut-être mes sœurs n'ont pas retenu ce geste-là. Moi, c'est celui-là que j'ai retenu. C'est et ma qui m'a consolidé dans le fait que oui, il fallait s'émanciper.
Oui, et puis
transgresser. L'ordre établi, c'est exactement ça.
Oui, oui, et puis sortir aussi de, j'allais dire, du poids des traditions.
Oui.
Et c'est pour ça que j'évoquais la question du prénom. Tout n'est pas joué, tout n'est pas écrit, et à un moment donné, on n'est pas obligé d'être dans la répétition d'une histoire précédente. Et ça a été le cas avec le choix de votre prénom.
Absolument.
Et je trouve cette histoire absolument magnifique, parce que votre mère a fait preuve d'une liberté absolument incroyable.
Oui. Oui, oui, et ça, elle me l'a souvent raconté. Et elle a dit, oh, j'en ai marre de donner, elle parlait comme ça, j'en ai eu marre de donner le nom des grands-parents aux enfants. Et alors, elle était, il faut raconter que, donc, à ce moment-là, ils étaient dans le, ils étaient inscrits au mouvement de la paix, ils étaient au Parti communiste. Et à cette époque, ça, c'était extrêmement important dans la société française. Et même si c'était pas jugé par tout le monde comme bénéfique, mais elle était très admirative. Ma mère voulait toujours aller à l'école, et elle a dû travailler à l'âge de 13 ans, et elle avait ce regret là et elle, dans cette mouvance du mouvement de la paix, il y avait ce mot progressisme qui circulait. Elle était admirative de la science, il fallait développer la science, et elle était, oui, admirative de ça. D'ailleurs, elle a voulu donner son corps à la science, elle n'en a jamais démordu. Elle a fait ce vœu à ce moment-là, et elle a été jusqu'au bout. Et donc, elle lisait, et oui, elle a lu un article sur Irène et Frédéric Joliot-Curie. Et surtout, elle était admirative de Marie Curie. Elle disait, formidable, femme.
Prix Nobel.
Et Et donc, quand elle a lu cet article, elle a dit, le prochain là, que j'attends, si c'est un garçon, sera Frédéric, si c'est une fille, sera Irène.
Quelle émancipation.
Je trouve ça formidable. Et j'aime beaucoup mon prénom, j'ai cette chance. Je l'aime beaucoup et j'ai l'impression que j'en aime la consonance, mais je pense que c'est grâce à cette histoire que je l'aime. Et effectivement, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer, j'ai pu parler de ça en analyse aussi, mettre au jour certaines choses, mais je pense que ça a joué un rôle dans le fait que je me suis retrouvée au CNRS, après plusieurs péripéties.
La matinée se lève, toi debout.
Attends encore, attends. J'ai pas fini mon rêve.
Le soleil nous inonde. Regarde-moi ce bleu.
Attends encore un peu. Je refaisais le monde.
Lève-toi donc, respire, quel printemps nous avons.
J'efface mille avions, une guerre, un empire.
Faut labourer la terre et tirer l'eau du puits.
Changer la vie et puis abolir la misère.
Regarde la louette, il est midi sonné.
Abandonné, je le donne aux poètes.
Allons, viens dans les vignes, le soleil est très haut.
Le monde sera beau, je l'affirme, je signe. Le monde sera beau, je l'affirme, je signe.
Alors, ce qu'on voit apparaître aussi dans cette histoire, dans cette anecdote, Irène Fenoglio, c'est ce que j'évoquais il y a quelques minutes dans cet entretien, c'est l'importance du désir. Mmh. Et je crois qu'on ressent la force du désir dans tout votre parcours, et dans leur parcours à eux aussi.
Oui.
De comment le désir, c'est la vie, et sans désir, on n'avance pas.
Mmh. Oui, je pense que c'est le désir... agit en nous comme une force productive. La preuve, quand on est en dépression,
on
n'a pas
de
désir, on ne bouge plus, on ne fait plus rien. Donc oui.
Et le désir, c'est pas acheter un nouveau téléviseur ou voilà.
Non, le désir, il est vraiment une force mystérieuse qui est en nous et qu'on étouffe ou qu'on essaie de suivre. Et si on a la chance de pouvoir s'interroger sur soi-même un certain temps, de voir quelque chose de ce qu'il est, parce que c'est pas évident non plus. Je crois qu'il est bénéfique de le poursuivre. C'est ce qui nous rend actifs et pas passifs. C'est ce qui agit dans la curiosité.
C'est ce qui nous pousse.
Qui nous permet de nous ouvrir au monde. Il n'y a pas, je ne crois pas qu'il y ait autre chose que cela.
Oui, alors toujours en matière d'héritage, vous évoquez que vous avez reçu d'une certaine manière cette nécessité de survivre, de lutter pour la survie qui vous a été transmis entre guillemets par votre mère au vu du parcours difficile qu'elle a pu avoir, et puis en même temps aussi cet élan, cette flamme, cette curiosité, cette vivacité, cette capacité d'émerveillement, parce que c'est cet ordre-là. Et moi je vous comprends tout à fait quand vous évoquez votre joie devant les petits bourgeons de printemps. Je partage. Voilà. Et il y a ces deux pédales qui sont en même temps et sur lesquelles vous appuyez un coup l'une, un coup l'autre pour trouver un équilibre.
Oui. Ben, c'est ça la métamorphose, en fait. Parce que ma mère avait de petits émerveillements qu'elle nous a transmis. Elle adorait les fleurs, elle les regardait.
L'arrivée à Nice.
L'arrivée à Nice. Je trouve cette scène... Je la vois dans un film, c'est extraordinaire. Et elle nous l'a répété combien de fois ? Ça signifie que ça a vraiment marqué la petite fille qu'elle était. Quand elle arrive devant ce fleuriste, elle n'imaginait pas que ça existait.
Une collection. La beauté gratuite.
La beauté gratuite, voilà. Enfin, gratuite.
Oui, enfin, oui.
À la vue.
À la vue. Pour tout le monde.
Oui, pour tout le monde. Et c'est ce qui l'a marqué. En premier, parce qu'après, ce sont évidemment les premiers appartements, tout ça, c'est la pauvreté qu'elle connaissait.
C'est la survie après.
Oui, je sais plus ce que je voulais dire sur. Est-ce que l'équilibre vient de. Donc ma mère est un petit peu restée dans cette trajectoire de. On n'a pas les moyens, c'est pas pour nous. C'est terrible.
C'est une phrase.
Et elle est restée un peu là-dedans, mais en même temps j'avais la vision de mon père qui avec rien construisait une maison. C'est assez extraordinaire, mais même ma mère était en contradiction, puisque avec rien, avec un bout de tissu, elle faisait des robes magnifiques et extraordinaires. Donc, il faisait des... Donc, moi, j'ai pris le côté tout est possible, même s'il n'y a rien. Et c'est... Même dans des moments, des situations où j'étais en difficulté dans ma vie, plus tard, beaucoup plus tard, je me suis toujours arrangée en me disant « mais ça, je peux le faire, donc faisons-le. Ça, c'est toujours possible, donc faisons-le. » Et ça, c'est une force du désir, je pense. Il n'a pas été complètement étouffé.
Alors, tout à fait, c'est le moteur de l'histoire. Irène Fenoglio, dans Tout héritage est une métamorphose, vous posez la question de savoir aussi si vous êtes transfuge de classe, puisque c'est quand même quelque chose qu'on entend beaucoup. Mais là encore, vous refusez cette simplification.
Oui. Transfuge, oui, en tout cas, oui.
Non, parce on est toujours...
On ne quitte pas, d'abord.
Non.
On porte ce dont on hérite, et on ne passe pas d'un bord à l'autre, on ne trahit pas, non, il y a un passage qui est chaque fois singulier, avec des aléas, des données qui sont singulières à chaque personne, et donc transfuge, non, je le refuse.
La fuite, c'est pas beau.
Hein. Mais non, on fuit pas, on trahit pas. Non, bien sûr que non, on devient autre chose. On métamorphose ce qu'on a reçu. Et je suis plus en accord avec la notion de transclasse que développe Chantal Jacquet, dont elle parle très bien en sociologue, enfin philosophe, mais sociologue. Et oui, parce qu'on passe, on passe. Et transfuge héroïse la personne, fait...
héroïse et dévalorise.
Et dévalorise aussi, mais il n'y a pas de question morale dans ce passage. Il n'y a pas, on n'est pas mieux parce qu'on a pu passer. On a choisi un chemin. Je vous dis, moi j'ai 5 frères et sœurs. Ils n'ont pas choisi le même chemin que moi. Ils en ont d'autres. Et c'est, il n'y a pas de valeur à donner à cela. Il y a à examiner la trajectoire et voir ce qu'on peut faire de ce qu'on a reçu ou pas reçu. Et je crois qu'on n'est pas responsable. Je crois qu'il faut le dire, on n'est jamais responsable de ce qui a été fait avant nous, de ce qu'ont fait nos parents, de ce qu'ils ont voulu faire. Mais on est vraiment responsable parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc, on est responsable de ce qu'on a reçu, de ce qu'on n'a pas reçu, responsable, je veux dire, de la face, de ce qu'on fait, de avec. Ce qu'on a reçu, ouais. De ce qu'on fait avec. Ça nous appartient.
Oui, même si des fois, j'allais dire, la honte peut se transmettre, la culpabilité peut se transmettre, et c'est là où on a un travail sur soi à faire.
Absolument, absolument. On peut subir la honte et sans savoir trop d'où elle vient. C'est très complexe, le sentiment de honte. Il y a plusieurs hontes qui se mêlent, mais ça empoisonne la vie. C'est comme la culpabilité. Ça empoisonne la vie et ça... il faut mettre au jour tout ça, savoir pourquoi, comment, sans avoir à juger, on peut juger des actes, bien sûr, il faut bien le faire, mais sans avoir à, comment dire, il faut faire quelque chose de tout cela, il y a toujours quelque chose à en faire.
Ça a existé,
c'est là, on ne peut pas le faire disparaître. Et donc, faisons-en quelque chose qui correspond à notre pratique. Parce que ça aussi, c'est important. Ne pas se conformer à la morale sociale, qui est toujours là à nous envahir, mais à se chercher dans tout ce réseau d'injonctions, de devoirs, d'obligations familiales ou... de sociétal, de se chercher sa propre éthique de conduite dans la vie. C'est ce qu'il me semble. Et il me semble que c'est à la portée de chacun, pour peu qu'on en ait le désir.
On revient au désir.
À la mattina, appena alzata, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao alla mattina. Appena alzata in risaia mi tocca andare. E fra gli insetti le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e fra gli insetti e le zanzare, un duro lavoro mi tocca fa', oh mamma mia, che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni domani, io ti invoco ogni domani.
bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. E le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano.
On a évoqué beaucoup de notions, de cheminement, de pensée, mais il y a aussi les objets. Et les objets sont importants parce que tout héritage est une métamorphose, mais en évidence des objets très ordinaires et le poids symbolique, l'importance que ces objets peuvent avoir. Ça peut être un bol qui sert à faire le fromage, ça peut être une paire de lunettes, ça peut être une paire de ciseaux avec le nom dessus, et tout ce que ça transmet quand même.
Oui, bien sûr, bien sûr. Quand on n'a rien, on a quand même des petites choses qui sont ces objets. Je pourrais prendre l'exemple du moule à fromage. Ma mère nous en parlait, elle nous racontait comment son grand-père faisait du fromage avec les quelques vaches qu'ils avaient. Et elle me décrivait cette façon de faire le fromage et l'objet. Et je suis allée plusieurs fois voir le village de ma mère, et là j'étais avec mon petit frère et ma fille. Et j'ai osé demander à rentrer dans la maison. Là, déjà, c'était un émerveillement parce que je voyais ce que ma mère m'avait raconté. Et je vois cet objet. Je ne peux pas jurer que c'est celui-là. Mais je le vois comme tel que l'avait décrit ma mère. Il est là, dans cette pièce. Et donc, je demande à la voir. Et ça m'est... Le vieux, très très vieux, il était très très vieux, parent de cousin, arrière-cousin, je ne sais trop exactement qui possédait la maison, me le donne. Et je ramène à ma mère qui est extrêmement émue et toute contente. Elle me dit oui, c'est celui-là. Donc moi, je la crois. Et voilà, puis après elle m'a dit non, mais tu prends-le parce que... Voilà, moi, son appartement était tout petit et je ne sais pas trop où le mettre, prends-le. Et je le garde avec... Je l'aime, cet objet. Il a une rugosité, il est blanc, ondulé, qui a caillé à l'intérieur. Et c'est un objet que j'aime beaucoup. Ça, c'est une transmission, comment dire, matérielle, réel, qui est pour moi extrêmement symbolique. Ma mère vénérait son grand-père parce qu'il a comme sauvé sa mère, en fait, en quelque sorte, qui était... puisque quand ma mère est née, son père est mort deux mois après de tuberculose, et ma grand-mère est restée seule avec cinq enfants, toute seule dans ce village, c'était très difficile. Et donc son père est venu l'aider, le grand-père de ma mère. Pour les lunettes, oui, c'est donc mon grand-père. Il y a les lunettes de mon grand-père et il a fabriqué lui-même l'étui, qui est magnifique, qui est vraiment très beau travail. Et Et ces lunettes sont importantes pour moi parce que ma mère, elle vénérait son grand-père. Son grand-père, c'était extraordinaire. Elle disait qu'il était comme Victor Hugo. Il était aussi beau que Victor Hugo. En même temps, il était passeur de sel entre la France et l'Italie. Il marchait. Donc, il y avait toute une imagerie, un amalgame que je me suis fait dans sa tête, dans ma tête, et il avait passé des documents aussi pour un Claudio Alle qui a écrit toute l'histoire de la vallée où se trouve le hameau. Et donc ces lunettes sont pour moi comme ce grand-père manuel et intellectuel, Victor Hugo. Il représente quelque, comment dire, une personne complète.
Oui, alors je vous interromps, je suis désolée.
Oui, je vous en prie.
Mais j'allais vous dire, c'est quelque chose de fréquent dans la famille, parce que je pense à cette grand-mère que les voisines critiquaient, oui, parce qu'elle usait les chandelles pour lire des livres, elle prenait les pages des feuilletons, elle les cousait pour en, oui, faire des livres qu'elle dévorait à la chandelle. Quelle honte, oui. Donc la lecture et les livres, oui, c'est quelque chose d'absolument inutile, mais pourtant c'est présent dans la famille.
Absolument.
Et ça, je crois que c'est aussi un élément important.
C'est très très important, oui, je pense. Et donc ma mère était dans cette contradiction d'aimer la lecture, d'avoir été finalement poussée par sa mère à lire et n'avoir pas pu aller
à l'école.
Et je pense que mon désir de continuer à faire des études, à faire de la recherche et tout ça vient aussi de là. Mais c'est vrai qu'on a toujours eu de l'amour des livres. Alors mon père n'a pas cette tradition dans cette famille, en tout cas pas aussi apparente, prégnante que chez ma mère. Mais dès l'après-guerre, dès qu'il est rentré de guerre, qu'il est allé au Parti communiste, il allait faire des écoles, écouter des conférences.
Il, oui, tout ce qui était éducation populaire.
Il amenait des livres à la maison et c'était très important. Le livre est vraiment devenu quelque chose d'important. Sur ses chantiers, ils avaient à vider de vieux appartements. Ils ramenaient des livres à la maison. Ils nous les montraient. C'est comme ça qu'il a trouvé, je pense, un que sais-je sur
l'étoile.
C'est précieux tout ça. C'est extrêmement précieux. Alors, si on renvoie à cet homme, c'est un maçon, ouvrier maçon, même pas entrepreneur, hein, ouvrier maçon. Bon, il sait rien. Il n'a pas réussi sa vie. C'est déplorable, c'est qu'on n'a rien compris à ce que c'est que la vie.
Tout à fait. Alors, des livres, il en est question aussi, Irène Fenoglio, puisqu'il y a des auteurs qui parcourent Tout héritage est une métamorphose. Il y en a un qui est très présent, c'est Pascal Quignard, qu'on retrouve de page en page. Et puis, il y a quelqu'un qui m'est cher, qui est André Chédide, avec l'évocation de ce très beau livre qu'elle avait fait sur Lucie. Voilà. Et Lucie, c'est nos origines. Et les origines, elles sont, pour tout le monde, les mêmes. Après, les choses se complexifient, se multiplient. Mais cette présence, elle est absolument merveilleuse.
Oui. Alors, Pascal Quignard, oui, c'est un écrivain dont je lis tout ce qui sort, qui m'a beaucoup apporté. Je crois que c'est un écrivain extrêmement... c'est un des écrivains essentiels de ce 20e et 21e siècle, parce qu'il embrasse dans l'ensemble de son œuvre toute l'histoire de la littérature et de l'écriture. Et donc, c'est très... Et puis, je suis extrêmement sensible, en accord avec la façon dont il écrit. C'est une écriture sensuelle, avec le corps. Et voilà, donc, plus ses réflexions sur l'ordre du monde, et voilà. Et André Chédid, c'est une personne que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimée, que j'ai connue, que j'ai rencontrée au Caire, c'était une personne extrêmement... Alors, elle habitait de désir. Extrêmement enthousiaste, vive, généreuse. Une générosité incroyable. Et donc, je l'ai beaucoup lu. J'aime beaucoup l'orientation, le contenu de ce qu'elle écrit, qui est toujours de montrer que la relation à l'autre est possible, qu'elle est sensible, qu'elle doit être respectueuse. Et dans Lucie, donc oui, j'ai vu les manuscrits de Lucie, j'ai travaillé sur ces manuscrits et qui sont merveilleux, hein, plein de couleurs, comme elle.
Ouais, ça ne m'étonne pas.
Et j'ai trouvé, je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y ait d'autres romans sur cette découverte. Et donc j'ai beaucoup apprécié qu'elle ait écrit un roman. Elle imagine la
femme verticale.
La femme verticale, c'est merveilleux.
Ah bah oui.
Et donc elle s'empare de cette découverte au moment où elle est publiée, hein, et elle décrit cette femme qui marche, qui se pend encore un peu aux arbres, mais qui quand même trouve que marcher c'est pas mal, et voilà. Et donc ça m'amène au fait qu'aujourd'hui tous les anthropologues désigne la bipédie permanente comme c'est la bipédie qui a fait se développer le cerveau, etc.
Qui a libéré les mains, le début de notre histoire.
Bien sûr, c'est le début de notre histoire humaine. C'est pas le début de la vie, mais c'est le début de notre histoire humaine. Donc, oui, on n'a pas des racines, on n'est pas des plantes.
On bouge.
Les plantes sont... Les racines vont de plus en plus profond ou de plus en plus à l'horizontale, mais de plus en plus long pour immobiliser l'arbre ou la plante. Et alors que nous sommes destinés à bouger, à avancer. Et cette métaphore des racines, je réfléchis beaucoup à ça, et je crois que je vais développer une réflexion là-dessus en cherchant d'où elle vient, cette métaphore et tout ça, parce que ça m'intéresse vraiment. Et cette métaphore, elle assigne à résidence. On dit d'où tu viens, t'as tes racines là, alors tu dois rester là. Tu dois y retourner.
C'est un emprisonnement.
Et bon, c'est tellement utilisé par, disons, la mouvance d'extrême droite que pour moi, je la refuse.
Tout héritage est une métamorphose, c'est d'Irène Fenoglio. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cet entretien. C'est paru chez Albin Michel. Ma question, mais vous l'avez un peu esquissée, peut-être, vous avez esquissé un peu la réponse, c'est « et après ?»
Et après...
Un autre livre ?
Ben, je réfléchis justement à... Donc, je veux développer, enfin rechercher...
sur les racines.
Sur pourquoi on s'est emparé de cette métaphore et qu'elle circule tout le temps. Moi-même, j'ai dû l'employer.
On l'utilise.
Donc ça, c'est une chose. Et puis, je voulais m'intéresser à la notion d'exil, mais je trouve que ça ne pointe pas ce qui m'intéresse vraiment. Et donc, je commence à m'intéresser à la notion de dépaysement, qui est commune à tout le monde. On change de classe, un enfant change de classe, hein, la transclasse, ou on change de pays, ou Il y a quelque chose qui se passe là dans
On change d'époque.
On change d'époque. Qui se passe là, qui me semble... On quitte et on arrive. Et c'est ce mouvement-là, je ne sais pas trop comment en parler maintenant, mais c'est ce qui m'occupe un peu.
Merci beaucoup Irène Fenoglio. Tout héritage est une métamorphose. Et chez Albin Michel, j'espère qu'on a l'occasion de se rencontrer à nouveau pour continuer cette conversation.
Et ben, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie.
Des tomates, des pêches, ricotta, collier d'ail, un plat de pâtes fraîches, un verre à ta santé, al dente. Al dente, ça veut dire des pâtes pas trop cuites, bien fermes dans le rire, sauf pour les nouilles fascistes et leur bouche édentée, al dente. Luigi Campolonghi, tu passais les frontières vers la paume de qui t'accueillait comme un frère, une corde à sauter, al dente, combattant sur les ports comme ces Italiens, tu cherchais pour trésor une main dans la main, sans armes, sans épée, al dente. Canevas tissé entre deux mondes, du père de Cavana jusqu'aux yeux des Jocondes, un monde inventé, al dente. Gens d'ici, gens d'aussi, échoués sur le sable, venez boire sa vie sur le bois de sa table, si vous êtes tentés, al dente. Habiter les frontières, quand on abat les murs, on en bâtit derrière. Carte d'identité, al dente.
Ploum ploum tra, ploum ploum tra, anarchie vaincra.
Toujours Radio Libertaire, bien sûr. C'était Irène Fenoglio qui nous parlait de Tout héritage est une métamorphose, paru aux éditions Albin Michel. J'espère que ça vous a passionné autant que moi ça l'a fait. Voilà, un petit morceau des Pink Floyd, juste pour le plaisir. Et puis, pour vous dire au revoir, on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Libertaire. Et nous, dans la prochaine émission, on parlera des amours de George Sand. Thank you.
libertaire, voix du libertaire.
Conscrit qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître, pas vrai maître.
Alors,
je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débats, livre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe quand on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot.
Pour la mascarade, ceux qui viennent des fonds semblants, effeuillant d'une main distraite, du bout du cœur, du bout des gants, un crisant tes mains, je regrette un peu beaucoup passionnément. Le jour de la dernière fête, le jour de la dernière fête, au jour de mon dernier matin, au jour où je me ferai belle, au jour où salue les copains, je pars pour là-bas, on m'appelle, j'irai cultiver mon jardin, j'irai voir fleurir mes roses, d'un autre côté du chemin, d'un l'autre côté du chemin, ça fera du monde à l'enterrement, et fini la douce habitude, celle-là de passer mon temps, à vivre dans la solitude, je sens qu'au dernier rendez-vous, non, non, je ne serai pas solette, qu'il vienne et ce sera vivant, le jour de mon enterrement, qu'il vienne et ce sera vivant, le jour de mon enterrement, je veux que ce soit au printemps, à l'heure de la belle lumière, je veux m'en souvenir longtemps, de l'heure de mon heure dernière, et lorsque je serai couché au-dedans de la bonne terre, on vous tous que j'ai tant aimé durant cette vie tout entière. Si vous entendez, ma dernière petite chanson, surtout n'en ayez pas de peine, c'est pour dire adieu, je vous aime et je m'en fais le cœur content. C'est pour dire adieu, je vous aime, le jour de mon enterrement, le jour de mon enterrement.
Il y avait un ciel, un soleil et une mer. Il y avait tout ce qu'il y a sur une plage en hiver. Le ciel était bleu, aussi bleu que ton petit frère, quand je l'avais attaché dans l'arbre l'année dernière. Il aurait dû comprendre dès ce moment-là, j'aurais fait n'importe quoi pour une heure avec toi. Notre amour est foutu. Moi c'est pas ça tu sais, c'est pas ça que j'ai voulu.
notre amour est foutu. Oh, je comprends pas que tu m'en aies voulu. Il y avait tout ce qu'il y a sur une plage en hiver. Des ampoules, des papiers, des planches et des bouts de verre. La mer était loin, aussi loin que ton petit frère. Sur son matelas de plage, en route pour l'Angleterre. Je l'avais un peu poussé, mais j'ai dit pour te plaire que je trouvais ça joli, ce petit point sur la mer. Notre amour est foutu. Moi c'est pas ça, tu sais, c'est pas ça que j'ai voulu. Le matelas est foutu. Bon, je pensais pas que tu l'aurais reconnu. Plaque de cambouis. Mon phasard est foutu. T'aurais canyonisé un mot qu'on cadisait. Mon phasard est foutu. Mazouté. Je t'ai oublié.
Devoir se séparer.
Si.
Oh, ça va se passer simplement. Hein. On va encore faire une dernière chanson et on va se tirer dans les loges, on va plus en sortir.
Si la Bretagne était une femme, on l'entendrait alors chanter. Ce chant d'amour qui vient de l'âme pour sa fille perdue, bien-aimée, du nom de Nantes précisément, qu'on lui a volée sans merci, tout comme Guérande, Chateaubriand, Saint-Nazaire, Pornic, Ancenis. Si la Bretagne était une femme, on l'entendrait alors chanter.